année politique. À quelle année politique riche en revirements, en basculements, en changements d'alliance, des scandales qui ont jeté une lumière crue sur la classe politique en Belgique. Comment, du coup, ne pas tomber dans le tous pourris, ne pas rendre caricatural le discours politique. On en parle ce matin avec un caricaturiste liégeois, Thomas Guédissu.
Bonjour Pierre Kroll.
Bonjour.
Est-ce que la politique, c'est devenu une caricature ?
Ça en suscite beaucoup. Oui, parfois la politique se caricature elle-même.
Est-ce que cette année, le monde politique est devenu la caricature de lui-même ?
Faut voir ce qu'on entend par une caricature. C'est pas quelque chose qu'on a gonflé pour le rendre ridicule. Je pense que si la caricature, c'est aussi quelque chose qui dévoile les coulisses. Hein. Souvent, le dessin de presse, c'est on imagine ce que le politique a pensé mais n'a pas vraiment dit. On devine des choses qu'il y a derrière. Vous savez, j'ai souvent dessiné le roi Albert qui pouvait pas s'exprimer comme aucun roi. Et j'ai appris par son chef de cabinet, Van Ipperzeel, qu'il se retrouvait dans tout ce que je lui faisais dire. Donc parfois, on voit juste. Alors, si c'est ça la caricature, de déshabiller un peu l'apparence, alors oui, cette année était une caricature parce que je pense que cette année a vraiment déshabillé beaucoup de mécanismes qui sont au cœur même de la politique et qu'on ne voyait pas.
Une année politique particulière, en effet, sans élection, mais rarement on a eu droit à autant de revirements, de démissions, de scandales. S'il fallait croquer ça, là, en cette fin d'année, en un dessin, ça serait quoi ?
Oh, ça la colle, ça, en un dessin, vous savez.
Une mariée déshabillée, du coup.
Oui, parce que moi, je ne dessine pas l'année. Je revois tous les dessins que j'ai faits pendant l'année. Je ne dessine jamais qu'un petit événement.
Il y avait quelque chose de particulier quand même cette année, non ?
Oui, cette mariée, la mariée déshabillée, oui, ou une espèce de radiographie, quoi, quelqu'un qui serait derrière, vous savez, un appareil de radio en disant « qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de moi ?» Ouais, je n'ai pas vraiment le dessin qui résume tout.
Et pourtant, on en a eu, hein, des années de crise avec des chutes de gouvernement, mais il y avait quelque chose de marquant, de choquant, de voir comme ça cette arrière-cuisine de la classe politique au grand jour sous les projecteurs.
Oui, parce que justement, ça montre des mécanismes. L'affaire Publifine, au départ, c'est quoi ? C'est de s'apercevoir que des mandataires, d'abord, qui sont aussi nombreux pour s'occuper de quelque chose, qu'ils ont des jetons de présence qui ne sont pas très, très petits et qui ne vont même pas aux réunions. Bon, mais en fait, c'était quelque chose que, si on s'y intéressait, on pouvait savoir depuis longtemps. C'est au cœur même du système. Si vous voulez faire de la politique, Thomas, vous allez dire maintenant, moi je quitte pas mon poste de journaliste pour crever de faim. Vous allez me trouver quelque chose. Mais oui, bien sûr, on t'enverra là-bas, 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 là-bas. On a autant de mandats à partager, ça te fera déjà.
C'était ce système des mandats qui a été mis au grand jour.
Oui, c'est ça. Donc il est. En quoi est-ce qu'il est scandaleux ? Parce qu'on le juge scandaleux, mais il était là avant. C'est pas un dérapage, c'est le fondement du système.
Mais cette affaire a provoqué un séisme wallon, un revirement, un changement de majorité, avec ce coup d'éclat, le 19 juin, le coup du président du CDH, Benoît Lugène. Petit retour en arrière.
Force est de constater qu'après 30 ans de pouvoir ininterrompu, le Parti Socialiste porte une responsabilité écrasante dans l'ampleur et la répétition des scandales.
Qui a trahi un jour, trahira toujours.
La rupture est nécessaire.
D'accord, qui a trahi un jour, trahira toujours.
Je n'ai pas d'expérience par rapport à cela.
Et donc,
je ne pense pas. J'ai toujours été conforme aux convictions.
On verra demain si le CDH existe encore ou s'il est déjà devenu une annexe du MR.
Pierre Kroll, c'est trahison, c'est normal en politique.
Là aussi, je trouve qu'on a vu le fonctionnement réel, comme si vous regardez un match de foot avec les commentaires d'un spécialiste, avec les coulisses, avec ce qui se dit avant, ce qui se dit après. Parce que la politique, c'est ça. Il n'y avait rien d'antidémocratique à faire tomber ce gouvernement. On peut le faire, il y a une autre majorité qui est là, voilà. Mais en même temps, c'est parce que les gens ont demandé. Ils ont voté une fois, ils croyaient qu'on aurait ce gouvernement jusqu'au bout. Les antisocialistes sont contents, ils applaudissent parce que les socialistes se cassent, et les autres sont pas contents. Mais on est au cœur du système. Or, il paraît violent. Donc, ce que je trouve particulier cette année, c'est qu'on comprend mieux, on a mieux compris comment les choses fonctionnent. Maintenant, petite anecdote sur la loyauté en politique. La veille du 19 juin, j'étais sur le plateau de l'émission À votre avis sur la Une, et je devais demander à Paul Magnette, en un mot, de définir deux, trois hommes politiques.
Qui était à l'époque ministre-président wallon, du coup.
Oui, et je lui montre une photo du président du CDH avec qui ils sont en coalition, Lugène, et je lui dis en un mot, Lugène, c'est quoi ? Il m'a dit loyal. Le lendemain, Lugène lui crachait dans son gouvernement et partait.
Et parfois, du coup, la réponse, entre guillemets, du monde politique a attisé l'incendie au lieu de l'éteindre. Ça a parfois été pire, entre guillemets, que mieux. On va écouter un petit extrait, justement, de l'émission, à votre avis, qu'on évoquait tout à l'heure. C'est André-Antoine qui est interpellé, c'était l'an dernier, donc, par un jeune sur le plateau, justement, sur cette question de l'éthique en politique.
On est d'accord que ce n'est pas le premier scandale qui lie la politique à soit les entreprises publiques ou privées. N'est-il pas trop tard pour s'intéresser aux problèmes d'éthique? Cela devrait être une valeur fondamentale, non?
Vous avez raison. Vous avez raison. Vous ne m'entendrez pas contester votre... la dénonciation, elle est réelle. Et la gravité, l'émotion qu'elle suscite dans la classe politique est telle aujourd'hui que nous devons y apporter une réponse forte et rapide.
Une réponse forte et rapide, c'est ce qu'on a entendu toute l'année en fait.
Oui, mais d'abord vous constaterez que moi je suis pas sûr qu'il plaide coupable. Le jeune lui dit, en politique, il n'y a plus vraiment d'éthique et tout ça, vous allez changer ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Moi, j'aime bien que les hommes politiques aient une certaine autorité, évidemment qu'ils la méritent, hein, pas qu'ils la volent. Une vraie autorité intellectuelle, morale, on les a élus pour ça.
Mais en même temps, reconnaître ses torts et reconnaître le problème de la situation, c'est aussi une part, part d'honnêteté qu'on attend du monde politique.
C'est bien, mais ils ne font plus que ça. Cette année, on a tous entendu, oui, on est tous mauvais, quoi. On est tous désolés, on s'excuse tout le temps de ce qu'on a fait. C'est pas vraiment comme ça qu'on va redresser les
et
choses.
Et comment vous, Pierre Kroll, du coup, vous arrivez à dessiner et caricaturer ce monde-là sans tomber dans le tout pourri?
En essayant de l'éviter, mais c'est pas évident. Par exemple, au début de l'affaire Publifique, quand on entendait les commentaires de tous les gens, j'ai pas pu m'empêcher de faire un dessin que j'ai titré « Le bal des faux culs », donc c'était une espèce de ribambelle qui dansait sous une boule à facettes, parce que je suis désolé, entendre Jolet à l'époque et tout, le MR avoir l'air de découvrir qu'ils avaient un mandataire qui avait, je crois, 60 mandats et qui gagnait je ne sais pas combien, alors que moi, je le savais. Je suis dans aucun parti, je le savais. Alors, il fallait pas nous prendre pour des cons, hein.
Et du coup, ça a été repris par un tract d'extrême droite.
Oui, j'ai retrouvé ce dessin sur un tract d'extrême droite à Charleroi. J'ai évidemment pas laissé faire immédiatement. Donc, c'est que j'étais bien sur la même pente. Et moi, je voulais... Vous savez, quand on
fait... pas y échapper, du coup.
Quand on fait un dessin politique, je m'adresse à la fois au public pour dire voilà quelque chose que je crois avoir compris ou voilà ce que je pense de quelque chose ou bien rions-en ensemble tout simplement. Je m'adresse au public, mais je m'adresse aussi aux personnes que je dessine dedans en quelque sorte. Et en faisant un dessin comme celui-là, je voulais attirer l'attention sur aux hommes politiques sur le fait que des gens pensent que c'est un grand bal des faux culs. C'est un dessin à deux étages si on veut en quelque sorte. Donc je compte sur l'intelligence de mes lecteurs pour qu'ils ne me prennent pas au mot, et c'est comme ça que j'évite le populisme.
Et un an après, on attend encore toujours des réponses sur ce dossier Publifine. Liège, ça a été au cœur de ce scandale. On en a parlé, il y a eu d'autres scandales. Hein. Il y a le Casagate, il y a le SAMU social à Liège. Petit florilège de cette cité ardente au cœur des polémiques.
C'est un système de nature mafieuse parce qu'il fonctionne sur le principe suivant. Il fait la loi lui-même, il distribue de l'argent à tout le monde pour que personne ne pose de questions.
Nous avons pris plus de mesures au niveau de la Fédération liégeoise que n'importe quel parti n'ait pris encore ces dernières années.
Le cadre législatif ne permet pas la gouvernance économique, la transparence, la démocratie, tout ce que nous voulons. On n'est pas contre ça.
Pierre Kroll, vous avez eu mal à votre ville cette année?
Ce qui m'énervait en Liégeois, c'est quand le regard extérieur est fait uniquement de clichés et est faux quant au fond. L'histoire de Publifine, c'est une sorte de projet industriel et politique. J'ai à titre personnel déjà rencontré Stéphane Moreau et je lui ai déjà dit il y a longtemps pourquoi tu n'expliques pas ce que tu fais, au moins l'expliquer, le faire comprendre. Bon, il ne veut pas, il voulait pas communiquer là-dessus, ça paraît maintenant comme une grosse affaire.
C'est la thèse des défenseurs du projet, voilà, qu'on mettra mal Nétis, c'est aussi mettra mal l'emploi liégeois. N'empêche qu'au cœur de cette histoire, il y a la question de la norme. Est-ce qu'à un moment donné, ça fluctue, ça?
Oui, voilà. Si vous voulez que je vous dise, à titre personnel, je ne défends pas cette vision industrielle-là. Je ne pense pas que les intercommunales sont là pour faire tout ce qu'on fait faire à Nétis.
Mais est-ce qu'on peut faire à Liège ce qu'on ne fait pas ailleurs?
Mais alors, c'est vrai qu'à Liège, moi, j'ai un jour trouvé la devise de cette ville que j'habite, un jour où je ne savais pas exactement où me parquer, si c'était possible ou pas. Enfin bon, il y a un gardien de la paix qui tient une barrière en main. Je dis, est-ce que je peux garer ma voiture là pour pas trop longtemps? Et la réponse a été, je vous le fais avec un peu l'accent, normalement on ne peut pas, hein, mais fais-le quand même, voilà. Mais comme tous les clichés, il y a deux faces, quoi. Il y a un bon et un mauvais côté. Moi, je préfère une culture qui n'est pas une sorte de fascisme normatif permanent, du matin au soir, tu dois faire ce qui est obligatoire. Mais à Liège, on va peut-être parfois un peu loin dans le normalement, on ne peut pas faire comme ça, mais on va le faire quand même.
Et on a senti aussi cette espèce de patriotisme, entre guillemets, liégeois ressurgir, et à chaque déclaration sur ces affaires, on disait, ce qu'on dit à Liège, on ne le dit pas forcément dans les partis, les états-majors à Bruxelles, comme si les liégeois se tenaient entre eux, comme ça. C'est vrai, ça?
On dit toujours ça. Je peux en trouver autant de
de preuves qu'arriver à vous démontrer le contraire, ou en tout cas vous dire est-ce que c'est tellement différent ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un système montois particulier? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Avec un certain Diropo qui tient à peu près tout et tout le monde et tout. Moi j'entends souvent parler de ça. Et vous dites ça aux montois, ils vous disent que c'est pas vrai. Donc à Liège, quand on dit qu'on est tous un peu des fêtards et des rigolos, on le prend bien. Quand on dit qu'on est tous des mafieux et des voleurs, moi je m'excuse, hein, vous pouvez éplucher mes comptes, j'ai rien fait de mal, hein.
Ça fait 3 ans que le massacre de Charlie Hebdo a assassiné certains de vos collègues. Une récente polémique encore a mis en évidence des menaces sur la rédaction. Cette une avec Tariq Ramadan qui a d'ailleurs beaucoup fait rire. Comment vous décortiquez ce débat-là? Est-ce que ça évolue?
La première chose que je dis et que beaucoup, enfin que tous les dessinateurs ne disent pas, mais moi je l'affirme, c'est que Charlie Hebdo a trop de lecteurs. Je l'ai déjà dit à Harris, on se connaît, c'est pas de leur faute, hein, c'est les frères Kouachi, hein, c'est ces deux gros connards, hein, qui ont fait une pub comme ça à Charlie Hebdo. Pourquoi je dis ça? Parce que bon, Charlie Hebdo, c'est un journal satirique, le prend toujours comme exemple de la liberté d'expression, ça vaut pour eux, ça vaut pas pour tout le reste. Je sais pas si je suis clair, mais que lisent Charlie Hebdo, les gens qui aiment bien l'humour de Charlie Hebdo, il fait le même depuis 40 ans. Donc il y a des problèmes qui sont nouveaux, si vous voulez. Je ne sais pas si on a véritablement reculé en matière de liberté d'expression, parce qu'avant, justement, il y avait des gens qui n'aimaient pas un journal satirique, ne le lisaient pas. Des gens qui n'aimaient pas un journal de l'opinion rouge lisaient le journal d'opinion bleue. Et maintenant, tout s'est mélangé avec les réseaux sociaux. Ça a du bon aussi, hein, mais on a l'impression qu'on ne peut plus s'exprimer. Moi, les gens qui me donnent l'impression que je ne peux pas m'exprimer, ce n'est pas mon gouvernement, ce n'est pas quelqu'un de pouvoir. C'est en fait 6382 personnes qui vont dire « j'ai pas compris, espèce de con ».
Vous avez fait une expo à Molenbeek avec Plantu et plusieurs de vos copains. Vous avez rencontré des jeunes. Quelles ont été leurs réactions?
Alors, il y a eu de bonnes réactions du fait de montrer qu'on existe, qu'on est prêt à discuter. Voilà, je ne suis pas une autorité. Ils répondent toujours à des autorités, les jeunes. Hein. Les flics leur disent qu'ils doivent faire ça, le prof leur dit qu'ils doivent faire ça, et leurs parents leur disent qu'ils doivent faire autre chose. Et en particulier sur des questions des valeurs religieuses et autres. Et là, ils sont devant des gens qui veulent bien discuter. Ça s'est très bien passé. Mais j'ai effectivement été étonné par des questions. Un gamin de 12 ans qui me demande est-ce que vous n'avez pas peur de vous faire tuer? Je dis, tu te rends compte de ta question? Toi, t'as pas peur de te faire tuer? Je dis, mais pourquoi je me ferais tuer, moi? Je dis, et moi? Il me dit, ben, vous, parce que vous dessinez. Je dis, tu dessines jamais, toi? Si, mais parce qu'il est interdit. Et interdit, tu penses que c'est la mort? Tu mérites. Bah non, c'est peut-être un peu beaucoup. Voilà. Bon, les discussions sont de ce niveau-là.
Comme si